15. Tous les jours, 18h45, 15 minutes d'actu.
15 minutes d'actu.
15 jusqu'à 19h.
Avec Sarah Loubacouche.
Move! Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Qu'elle ait été géniale ou pas, vous pouvez vous détendre puisque vous êtes maintenant chez vous sur 15, votre rendez-vous d'actualité quotidien. Et toute cette semaine, on parle des élections européennes de juin sans prise de tête, avec notamment Estelle qui, à Skip, ne se prend jamais la tête. Salut Estelle.
Salut Sarah Lou.
Pas de prise de tête aujourd'hui ?
Non, aucune.
Aujourd'hui, tu vas nous expliquer le fonctionnement du Parlement européen.
Le seul Parlement au monde qui ne peut pas proposer de loi.
La notice du Parlement européen, c'est dans quelques minutes. Et cette semaine, nos reporters terre nous font voyager. Alors aujourd'hui, on n'ira pas au soleil, désolé, on ira en Allemagne, où écologie et jeunesse sont au cœur du scrutin européen. Bon, ok, je vous emmènerai quand même presque au soleil en fin d'émission, en Australie, où en 1985, une élection s'est jouée à une voix près. Parce que chaque vote compte, Lorenzo nous le prouvera en fin d'émission. Mais avant ça, ça dit quoi dans l'actu aujourd'hui ?
15.
Aujourd'hui, ça dit que plusieurs actus reposent sur la libération de la parole, sur le désir de dire sa vérité. Une expression populaire sans précédent en Colombie. Ces derniers jours, dans tout le pays, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans la rue pour protester contre le président de gauche, Gustavo Petro. Les manifestants rejettent plusieurs réformes et notamment le projet de nationalisation des services de santé. Ces services, ils sont financés en grande partie par l'État, mais leur gestion est assurée par des entreprises privées qu'on appelle entités de promotion de la santé, EPS. Et ces EPS ne sont plus du tout satisfaisantes. C'est ce qu'explique Jonathan Garcia Ruiz. Il est expert en politique de santé à l'université d'Harvard.
Ces derniers mois, les EPS ont réclamé au gouvernement une augmentation des contributions. Le gouvernement a vu les choses différemment et ouvert une enquête pour savoir ce qu'étaient devenus les fonds publics dépensés par les EPS, mais qui n'ont pas été utilisés pour la prise en charge des patients. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le gouvernement a voulu réformer le système de santé.
Ce projet de réforme est rejeté par le centre et la droite libérale, mais une autre cause animait ces manifestations en Colombie. La voix du pays tout entier s'élevait contre la violence qui ne cesse de déchirer la Colombie, et ce malgré les négociations de paix avec les groupes armés.
C'est la fête du chômage, sortez les muguets avec passion. Hommage à ceux qui se lèvent et tapent sans aucune lamentation.
En France, les chômeurs prennent la parole pour aller au-delà des clichés et pour exprimer leurs craintes. Dès le 1er juillet, le gouvernement va fixer des nouvelles règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et eux redoutent un durcissement des conditions pour toucher leur allocation. C'est le cas de Farida.
Moi aujourd'hui, je touche un chômage de 1 400 €. Donc je répète, 1 400 €. On ne vit pas avec 1 400 €. Et maintenir un espèce d'imaginaire collectif du chômeur ou de la chômeuse à la maison qui fout rien, qui attend juste de toucher les allocations et puis qui utilise l'argent des allocations pour se payer des abonnements Netflix me semble complètement absurde.
Pour la jeune femme, d'autres solutions seraient possibles. Par exemple, plus de moyens dans l'accompagnement professionnel.
Parlez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle.
Une nouvelle vague de libération de la parole des femmes depuis que l'urgentiste Patrick Peloux a été accusé il y a 2 semaines maintenant de harcèlement sexuel et moral. Alors dans le milieu hospitalier, les témoignages de femmes se multiplient. Infirmières, sages-femmes, médecins, elles dénoncent du harcèlement ou des agressions sexistes et sexuelles. De quoi alerter les directions hospitalières comme Nicolas Revel qui est le directeur général de la PHP.
Moi, ce que je retiens, et c'est ça le plus important, c'est que la parole doit se libérer. Elle commence à se libérer, en réalité, elle a déjà commencé à se libérer. Et on est en train, je pense, progressivement, un peu de passer un cap et de changer de monde, c'est fondamental. À la PHP, c'est quand même doté, sachez-le, parce que il y a une politique vraiment de tolérance zéro qui est en place à la PHP comme dans l'ensemble des hôpitaux sur ces sujets de harcèlement sexuel, mais pas que sexuel, hein, harcèlement moral aussi.
Malgré la mise en place de cellules pour recueillir des signalements, notamment à la PHP, eh bien, nombre de femmes n'osent pas encore parler. Le chemin est encore long, mais une voie semble quand même se dessiner.
Alors, la zone, ça dit quoi ? Move ! Mauve.
15.
Tous les jours, 18h45.
Avec Sarah Loubacouche.
Toute cette semaine, 15 est aux couleurs de l'Europe pour décrypter les enjeux des élections de juin. Et pour ça, je suis épaulée par notre askipeuse du jour, Estelle. Salut Estelle.
Salut.
Hier, tu nous expliquais comment voter. Tu nous as un peu mis la pression pour qu'on s'inscrive en ligne, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien de savoir aussi pourquoi on vote. Et ça, ça peut paraître parfois un petit peu flou. Mais Estelle, Askip, le Parlement européen, c'est pas un Parlement ordinaire.
Pour rappel, c'est la seule institution européenne élue directement par le peuple. Les 720 députés siègent à Strasbourg environ une fois par mois. D'ailleurs, ils y sont en ce moment même. C'est leur dernière plénière avant les élections. Ils peuvent aussi travailler à Bruxelles, en Belgique, pour être plus proches des deux autres grandes institutions, la Commission européenne et le Conseil de l'UE, qui est composé des ministres des 27 États membres.
Et quel est le rôle des eurodéputés?
Comme dans la plupart des parlements, ils votent le budget et ils surveillent les institutions, mais ils n'ont pas le droit de proposer des lois. C'est donc le seul parlement au monde qui n'a pas de pouvoir législatif. C'est du ressort de la Commission, comme nous l'explique Chloé, activiste pour la justice climatique, The Green Monkey, sur Instagram.
La Commission a ce qu'on appelle l'initiative législative, donc c'est la Commission qui propose les lois. Ensuite, les lois, elles passent au Parlement. Donc il y a des votes à la fois dans des comités, qui sont donc des comités spécialisés sur certains sujets, typiquement industrie, pêche, agriculture, environnement. Puis ensuite, tous les députés votent tous ensemble dans ce qu'on appelle la plénière. Donc là, c'est là où ils sont, les députés. Et puis, en même temps, souvent, de ce process, ou juste après, les États membres qui sont rassemblés au sein du Conseil de l'UE, eux aussi, ils négocient et ils adoptent leur position.
Le Parlement doit donc attendre les textes de loi de la Commission avant d'agir.
Ça le limite un peu, mais il y a une alternative. On appelle ça les rapports de propre initiative.
Quand il y a des députés qui pensent qu'il faut que la Commission se saisisse d'un sujet, par exemple, ils peuvent produire des rapports sur un sujet, mais du coup, qui n'a pas de valeur législative, mais qui est un peu une façon de dire à la Commission « Eh oh, nous on pense que ce sujet il est important et que vous devriez vous pencher dessus ».
Parce que le Parlement travaille en trio, les eurodéputés représentent un tiers du texte de loi final. Mais pour Chloé, ce sont surtout les plus à l'écoute.
Le Parlement européen, c'est un peu l'organe qui est le plus sensible aux préoccupations des Européens. Quand je dis ça, c'est parce que la Commission, effectivement, c'est des gens qui ne sont pas forcément élus. Donc parfois, ils sont un peu plus éloignés des préoccupations des gens. Et puis le Conseil, ça représente les chefs d'État. Donc parfois, c'est un petit peu difficile aussi de savoir ce qui s'y passe. Et nous, en tant que citoyens, là où on peut le plus facilement influencer le résultat des lois, c'est au niveau du Parlement. Parce qu'on peut interpeller nos députés. Et la preuve en est, c'est que sur un certain nombre de textes ces 5 dernières années, on a réussi à faire changer les choses en tant qu'activistes et collectifs citoyens et ONG.
D'ailleurs, Chloé, elle est en ce moment même à la plénière du Parlement à Strasbourg avec d'autres activistes pour le climat pour interpeller les députés.
Et ces députés, eh bien, ils sont répartis dans des groupes. C'est quoi ces groupes? Tu vas nous l'expliquer demain, Estelle.
Oui, c'est ça.
Oui. Merci. Merci beaucoup, Estelle. Et à demain.
15. Tous les jours, 18h45.
Avec Sarah Loubacouche.
Move.
Toute la semaine, Reporter Terre prend le large et fait un petit interrail. On visite l'Europe en vue du scrutin de juin. Aujourd'hui, direction l'Allemagne avec Sébastien Baer, le correspondant de Radio France à Berlin. Bonjour Sébastien.
Salut Sarah Lou, salut à tous.
Comme en Belgique où nous étions hier à la même heure, les jeunes Allemands peuvent voter aux européennes dès 16 ans. Pour les partis qui se présentent au scrutin, ils représentent un vivier de voix non négligeable. Mais Sébastien, cette opération séduction, elle passe aussi par les réseaux sociaux. Les partis tentent d'aborder les sujets préoccupants de la jeunesse.
Oui, un exemple tout récent, Sarah Lou, il y a quelques jours, les Verts ont présenté leur campagne pour les élections européennes. Ils ont parlé salaire, pouvoir d'achat, conditions de travail et évidemment aussi du Green Deal, le fameux pacte vert européen. Et dès la 13e minute de la conférence de presse, Thierry Reinke, qui est la tête de liste allemande des Verts pour les européennes, a interrompu son discours devant les journalistes et elle s'est adressée directement aux jeunes sur TikTok.
Nous sommes à 55 jours des élections européennes et notre slogan est « Faire ce qui compte ». Nous voulons mettre toute notre énergie à faire ce qui compte pour toi et pour vous. Alors qu'est-ce que vous en dites? Vous avez envie? Vous êtes partant?
Alors tu l'as rappelé, Sarah Lou, en Allemagne, les jeunes à partir de 16 ans vont pouvoir voter pour la première fois aux élections européennes. Alors j'ai posé la question à Thierry Reinke, la tête de liste des Verts. Que représente le vote des jeunes Allemands pour ce scrutin? Quelle est son importance? Écoute sa réponse.
Nous avons le programme qui représente le mieux les intérêts des jeunes. C'est pourquoi nous voulons nous adresser aux jeunes avec des candidats jeunes. Nous avons vu lors de la dernière campagne électorale européenne à quel point les jeunes électeurs peuvent être importants. Si vous regardez combien de jeunes de 18 à 23 ans ont voté pour les Verts en 2019, cela montre à quel point ce groupe d'âge est primordial.
Lors des dernières européennes en 2019, les Verts allemands avaient obtenu près de 21% des voix. C'est deux fois plus qu'en 2014, ils étaient ainsi devenus la deuxième force politique d'Allemagne. Cette fois, ils sont placés en quatrième position, autour de 13%.
Bon, alors voilà pour les déclarations d'intention, mais qu'est-ce qu'il en est réellement ? Est-ce que les jeunes Allemands adhèrent au programme des Verts ?
Oui, les thématiques des Verts sont importantes aux yeux des jeunes Allemands, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Selon une récente étude, le changement climatique, la pollution, l'extinction des espèces sont en tête de leurs préoccupations. Pour un Allemand sur deux entre 18 et 25 ans, ces sujets sont même les plus importants. Mais beaucoup estiment, à l'image d'Alex, c'est un étudiant de 22 ans de l'Université technique de Berlin, que ces thématiques ne sont pas suffisamment présentes dans la campagne.
Je souhaiterais que la politique fasse plus en faveur de la protection de l'environnement, surtout la défense des animaux. J'aimerais aussi que l'on sorte des énergies fossiles et que l'on réduise les gaz à effet de serre. En parallèle, il faut mettre l'accent sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire sur le solaire et l'éolien. Et puis en Allemagne, on peut rouler aussi vite que l'on veut sur les autoroutes. Je trouve que ce serait bien de fixer une limite de vitesse.
Alors rappelons que les Verts font partie du gouvernement allemand depuis maintenant 2 ans et demi. Ils sont membres de la coalition du chancelier Olaf Scholz aux côtés du Parti social-démocrate SPD et des libéraux du FDP. Et depuis, certains ont le sentiment que la voix des 6 ministres verts du gouvernement est trop timide. On ne les entend pas assez, dit par exemple Daria. C'est une berlinoise de 26 ans. Elle a d'ailleurs choisi de rejoindre le mouvement pour le climat Fridays for Future, qui est inspiré par l'activiste écologiste Greta Thunberg.
Les Verts ont bien sûr fait de la protection du climat leur cheval de bataille, mais ils n'agissent pas suffisamment. Ils font partie du gouvernement et pourtant il ne se passe pas grand-chose, ce qui me déçoit. J'ai envie de dire aux Verts, si vous voulez être le parti de la protection du climat, imposez-vous davantage et ne faites pas de compromis. C'est toujours la même chose quand les partis arrivent dans un gouvernement. Ce serait bien que les Verts fassent ce qu'ils ont promis de réaliser.
Plus globalement, Sébastien, un récent sondage montre que les jeunes de 18 à 30 ans sont assez critiques à l'égard des institutions.
Oui, Sarah Lou, d'après une étude de la fondation Bertelsmann, 52% d'entre eux affirment qu'ils ne font pas confiance au gouvernement et 42% se disent inquiets pour l'avenir. Alors un parti en profite, c'est l'AFD, l'extrême droite qui mène une campagne agressive sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et ça marche plutôt pas mal. Les vidéos de l'AFD font en moyenne 10 fois plus de vues que celles des autres partis. Écoutez Phil Schlicker, il est responsable des Jeunes Verts dans la région de Sarre. La Sarre, c'est à l'ouest de l'Allemagne.
Je pense que beaucoup de jeunes vont voter pour l'AFD parce que beaucoup ont peur de l'avenir et cherchent un peu de sécurité. Et c'est justement là que les populistes débarquent, avec leurs solutions simples et qui peuvent séduire. Mais ce n'est pas la solution. Malheureusement, il faut dire que de nombreux partis ont perdu le contact avec les jeunes électeurs. C'est pour cela que nous, les Jeunes Verts, nous sommes allés à la rencontre des jeunes avant les élections européennes. Nous les avons interrogés. Quelle est votre perception de la crise ? Qu'est-ce qui vous manque et surtout, comment pouvons-nous vous aider ?
L'extrême droite surfe pour l'instant avec succès, disons-le, sur les sujets de préoccupation des jeunes, la crise climatique, l'inflation, la pénurie de logements. L'automne dernier, lors des élections régionales dans la région de Hesse, à l'ouest de l'Allemagne, l'extrême droite est arrivée en deuxième position parmi les 18-24 ans et l'AFD pourrait bien réaliser une nouvelle fois un bon score chez les jeunes lors des prochaines européennes.
Merci beaucoup Sébastien, je rappelle que tu es correspondant de Radio France à Berlin. On te souhaite une très bonne journée.
Merci à toi Sarah Lou, à bientôt.
On se retrouve demain pour un nouveau reporter hors les murs sur Move, un peu plus au sud cette fois-ci puisqu'on ira en Italie.
15, tous les jours 18h45
avec Sarah Lou Bakouche.
Move. Que vous comptiez voter aux européennes ou pas, sachez qu'une élection peut se jouer à une voix près, parce que oui, chaque vote compte, Lorenzo. Les trois quarts des 18-24 ans ne sont pas allés voter.
La jeunesse ne vote pas.
L'abstention chez les jeunes est massive.
87% des 18-24 ans se sont abstenus.
Bon, vous l'aurez compris, les jeunes ne votent pas. En tant que jeune, on a souvent la sensation que notre vote ne sert à rien. Et c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer que mon vote à moi, Lorenzo, puisse avoir une quelconque importance. Et pourtant, bah si tous ces jeunes avaient grandi dans l'état de Victoria, en Australie en 1985 plus précisément, ils n'auraient peut-être pas le même discours. Allez, on y retourne. Les élections législatives de 1985 dans l'état de Victoria, en Australie, avaient pour objectif d'élire le nouveau Premier ministre ainsi que les représentants qui siégeront au Parlement composé d'une chambre haute et d'une chambre basse. Le Premier ministre sortant est John Kane Jr. Il est le chef du Parti travailliste, la majorité acquise au sein de la chambre basse lui permet d'être réélu Premier ministre. En revanche, si l'on prend l'ascenseur direction la chambre haute, pour y obtenir la majorité, il faut remporter 23 sièges sur les 44 disponibles. À la fin du scrutin, les scores indiquent 22 pour le Parti travailliste contre 21 pour l'opposition. Les meilleurs en calcul mental auront compris qu'il manque un siège dans les résultats des votes. Bah en fait, c'est totalement le cas car dans la petite province de Noona Wading, le candidat travailliste Bob Eve et la candidate libérale Rosemary Varty ont tous deux obtenu le même nombre de votes. Un vote de plus pour les travaillistes et ils avaient la majorité législative, un vote de plus pour les libéraux et ils avaient la cohabitation. Il était stipulé que dans la folle éventualité d'un tel scénario, bah en fait, il revenait à la directrice de scrutin de choisir un ou une gagnante. Elle décida donc de mettre deux noms dans un chapeau et de tirer au sort. Et là, coup de tonnerre, le hasard a mis dans sa main un papier au nom de Bob Eve du Parti travailliste. Avec la victoire de ce dernier siège, le Parti travailliste remporte donc la majorité au sein de la Chambre basse. Alors vous vous doutez bien, le Parti libéral a immédiatement contesté la décision, panique à bord, et ils ont obtenu une annulation du scrutin. Et mon petit doigt me dit qu'ils ont bien fait, puisque quelques mois plus tard, les électeurs de la province de Noona Wading ont été appelés à voter une nouvelle fois, et cette fois-ci zéro suspense, c'est la candidate libérale Rosemary Varty qui a gagné avec plus de 10 000 voix d'avance sur Bob Eve et réduit donc en fumée les espoirs d'un Parlement entièrement contrôlé par le Parti travailliste.
Un chapeau et beaucoup de chiffres, en tout cas j'en retiendrai qu'un seul de chiffres, 1, car une seule voix peut faire toute la différence. Il est déjà 19h, passé de 2 minutes, 3 minutes en vérité. Merci de m'avoir accompagné dans ce 15 autour de l'Europe et au-delà de ses frontières. Cette croisière a été préparée par la rédaction de Move, menée par le capitaine de bord Pierre Ramet à la réalisation sonore. Prochain départ pour le vol numéro 15, c'est demain à 18h45. Embarcation à l'écoute de Move. Et d'ici là, je vous laisse avec vos trois moussaïonnes, Soflo et Leïla, pour la pluie et le beau temps.